sur les ondes d'Arc-en-Ciel aujourd'hui, la séquence un peu spéciale. Et nous sommes heureux de présenter à nos voeux les plus beaux à Monseigneur Gilbert Aubry à l'occasion de son 70e anniversaire. Il est l'invité de Françoise et de Jean-Denis avec nous. Et vous, auditeurs, restez à l'écoute sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en direct en ce moment avec Monseigneur Gilbert Aubry.
Merci Huguette et merci Françoise de nous avoir rejoints. Et merci Monseigneur et joyeux anniversaire à vous.
Merci, merci à vous pour votre délicatesse et puis aussi merci aux auditeurs, à ceux qui me souhaitent joyeux anniversaire. Heureusement qu'il y a la radio, autrement on ne sait pas comment faire.
Donc là c'est vous qui rejoignez et ils sont déjà à côté de leur poste, en voiture, pour justement partager ce moment de joie, un moment convivial et aussi de bonne humeur en ce 10 mai, et il était une fois un 10 mai 1942, est né Monseigneur Gilbert Aubry. Aujourd'hui, donc, vous avez 70 ans. Ça fait quoi d'avoir 70 ans, Monseigneur ?
Ça fait que on arrive dessus sans s'y attendre. Et que normalement, l'essentiel, c'est de vivre. Et il y a une différence entre le temps et la durée. Le temps est quelque chose, je dirais, de conventionnel. C'est-à-dire, on fixe des références, tandis que la durée, elle est permanente. Et l'essentiel, c'est de vivre la durée, c'est d'essayer d'habiter chaque instant de sa vie. Et puis, tout d'un coup, on se découvre avec... on aspire à avoir 20 ans, c'est formidable. Et à l'époque, c'était 21, c'était la majorité, et non pas 18 ans. Et après, le temps prend une autre dimension, la durée vécue prend une autre dimension. Surtout lorsqu'on arrive à 50 ans, on peut se dire qu'on a passé la moitié de sa vie, et à ce moment-là, ça devient autre chose. Et quand on a 70 ans, alors 70 ans, c'est un 70e de la vie. Ce qui veut dire que chaque année est relativement plus courte que toutes les autres années passées avant.
Françoise ?
Alors, un dixième de la vie, vous dites, mais vous êtes né le 10 mai 42, ordonné prêtre le 23 août 70 et ordonné évêque le 2 mai 76. 70 ans, ça fait un petit peu plus de la moitié de votre vie que vous êtes évêque. Est-ce que vous êtes né pour être évêque ?
Ça, c'est... je vais vous raconter une histoire. Non, ma marraine elle arrivait à la fin de sa vie, elle était âgée et elle était sur son lit là, dans sa chambre, se préparer à la naissance éternelle, la naissance au ciel. Et puis sur la sainte table de nuit, il y avait une photo de mon ordination sacerdotale, Monseigneur Guibert, qui m'imposait les mains. Et je lui dis, tu aimes bien cette photo-là? Elle me dit, oui, mon enfant, mais c'est pas cette photo-là que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu avoir la photo de ton baptême. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo. Et par conséquent, le plus important, c'est ton baptême. Alors, est-ce que je suis né pour être évêque? Je suis né pour vivre dans le mystère de la vie avec... l'amour de mon père et de ma mère en Dieu, et puis ce que j'aimerais savoir, avec la miséricorde de Dieu peut-être, je pense, oui, je ne mets pas en doute la miséricorde de Dieu, mais arriver à connaître ce qui s'est passé au moment de mon baptême. On dit bien, là, les psychologues, que le plus important, c'est la gestation de l'enfant dans le ventre de la mère. Et que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère enregistre déjà, au bout d'un certain temps, tout ce qui se passe autour de lui, et ça se répercute sur son intériorité, et ça va se développer tout au long de sa vie. Alors, qu'est-ce que ça doit être, le baptême, quand le bébé que j'étais a senti l'eau couler sur lui, et que le père... Hervé Warraud, qui était curé de Saint-Louis, a prononcé les paroles que Jésus avait données. « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Je ne suis pas né pour être évêque, je suis né pour que le germe de la vie, l'étincelle de vie venant de Dieu en moi, puisse se développer et que, avec cette grâce du baptême, alors, tout puisse s'épanouir. Et peut-être que, entre guillemets, ma vie a été façonnée de telle manière que... voilà une autre histoire encore. Bon. C'était le 22 août 1970, la veille de mon ordination sacerdotale. Je crois que j'ai déjà raconté ça, mais pour moi c'est un moment fort qui me renvoie à la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la profondeur de la parole de Dieu, alors que j'avais déjà fait mes études de philo, la théologie. C'était la veille de l'ordination au tampon. Il y avait Yvan Bénard qui était là, le père Yvan Bénard, qui est décédé maintenant. Et c'était le père Rochefeuille qui animait la veillée de prière. Il y avait à peu près 250 personnes. Et puis, il y avait un temps de témoignage. Les personnes qui étaient là posaient des questions à Yvan et puis à moi-même. Et puis, il y a une personne qui me regarde, qui me dit « Vous, là, pourquoi vous avez choisi d'être prêtre ?» Alors là, bon, je dis, intérieurement, ça tournait à 10 000 tours minute, ou même plus. Hein. Et puis je dis, mais pourquoi j'ai choisi d'être prêtre intérieurement, hein. Et puis silence, 5 secondes, peut-être un peu plus même, presque 10 secondes, mais qui me paraissait une éternité, et les gens devaient se dire, mais... quoi, ce bonhomme-là, il sera ordonné prêtre demain, il ne sait pas pourquoi il a choisi d'être prêtre. Et puis, finalement, c'est la parole de l'Évangile qui m'est revenue intérieurement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et un fruit qui demeure. Et ça fait tilt en moi. À ce moment-là, ça a flashé. Et puis j'ai dit, je n'ai pas choisi d'être prêtre. Et j'ai senti un flottement, bon. Et puis j'ai dit, je vais m'expliquer. Vous connaissez la parole de Jésus? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. La conscience existentielle d'avoir été choisi dans un parcours de vie avec ce qui venait avant, ne sachant pas évidemment ce qui allait venir après, cette parole-là, elle est fondamentale pour moi. Et j'ai dit, je n'ai pas choisi, j'ai choisi d'être choisi, ce qui est différent. J'ai choisi, mais j'ai choisi d'être choisi.
Et voilà. De vous laisser choisir.
Et oui, de laisser choisir, ce qui a inspiré par la suite un chant à Jean-Marie Vincent.
Monseigneur, il y a quelque temps de cela, un de vos amis de jeunesse qui vous croisait, vous demandait votre âge. Vous étiez encore dans la soixantaine. Et vous lui disiez, j'ai 65 ans, mais les années d'épiscopat comptent double. Aujourd'hui,
pense,
ça vous ferait 105 ans. Alors pourquoi ces années d'épiscopat comptent double?
Je pense, par exemple, à un médecin. Hein. Bon, le médecin, il est dans son cabinet de médecin. Il reçoit les gens. Bon, il rentre chez lui, mais il doit avoir toujours sa valise de médecin prête, avec tous ses instruments, quelques médicaments, notamment pour le cœur et... Même s'il fait la fête, on peut l'appeler. Et s'il fait la fête, il ne faut pas qu'il fasse trop la fête, parce qu'on peut l'appeler le lendemain, et il faut être sur pied le lendemain. Quand les gens font la fête, en général, le lendemain, ils dorment. Il y en a qui boivent un petit coup de trop, d'autres qui ont envie de dormir. Mais un évêque, ça ne connaît pas ces temps-là. C'est-à-dire que... il faut être prêt tout le temps à partir n'importe où. Et par conséquent, quand on est évêque, même si on peut respirer avec un petit temps de vacances qui arrive pas trop souvent, on n'est jamais en vacances. Parce qu'il y a cette responsabilité qui fait que il y a d'autres derrière, c'est bien, mais c'est comme le père de famille, ou bien comme l'éleveur, et j'aime bien la comparaison de l'éleveur là, à la plaine des Cafres.
Ou le pasteur.
Ou le pasteur.
Comme on retire de l'évangile.
Oui. Mais hélas, l'image du pasteur ne parle plus tellement à notre civilisation. C'est un problème de retraduction, on pourrait dire, de transposition de civilisation. C'est pour ça que j'ai pris le médecin. Et l'éleveur aussi, l'éleveur... oui, l'éleveur pasteur, le 11 septembre peut arriver, les Twin Towers peuvent s'écrouler. Je dirais, oui, l'information, le choc. Mais à la limite, excusez-moi, il s'en fout, il pense à ces vaches qui sont là. Il faut les nourrir, il faut les soigner. Et par conséquent... on ne peut pas être évêque, et prêtre aussi, c'est pareil d'une certaine mesure, à plus forte raison le pape, dire « je suis prêtre pendant ce temps-là », par ailleurs, je ne suis plus prêtre, ou « je suis évêque pendant ce temps-là », et après, je ne suis plus évêque. Ce n'est pas possible.
Donc une intensité dans ses responsabilités et dans le service.
Une intensité, oui, dans le service, et j'aime bien l'expression service, le mot service. Quand j'avais 18 ans, j'étais un peu brise-fer. On faisait deux matchs de football par jour. On était capable d'aller faire des excursions en une après-midi, sortir de Sillaos, monter à la caverne du four, redescendre dans la même après-midi, ou bien si la hausse taille bite, il n'y avait pas la route, on descendait au fond de Bras Rouge et on remontait. Pourquoi je dis ça? J'ai oublié, là.
Pour la force de la jeunesse.
Pour l'intensité.
18 ans et l'intensité.
Pour l'intensité, oui, ce que je voulais dire, c'est que...
Le service.
Ah, le service. Voilà. Oui, le service. Merci, Jean-Denis. J'étais brise-fer, mais... j'avais une envie de vivre et puis de foncer, quoi. Hein. C'est aussi à ce moment-là que j'étais champion junior, 1000 mètres, 2 minutes 48.
Donc un bon moteur.
Et bon moteur. Et mon cardio me disait l'autre jour, mais les muscles, le muscle du cœur, c'est tant de millimètres, donc ça peut résister. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai dessiné... un insigne où il y avait en diagonale le mot « servir ». Et d'un côté, il y avait la croix, et de l'autre côté, il y avait le profil de la Réunion. Et cet insigne-là, on était une bande de copains à le porter, et je me souviens de... c'était Daniel Monnier, je crois, qui avait ensuite transposé cet insigne et fait un écusson vraiment qu'on pouvait porter. C'était en fer émaillé, on avait commandé ça en métropole, et pour moi ça a été toujours le point de référence.
Françoise ?
Au moment de votre, où vous êtes devenu évêque, on a beaucoup parlé de vous comme de l'évêque poète, de l'évêque chantant aussi.
L'essentiel, c'est de ne pas déchanter.
Et récemment, on a relu dans un groupe Rivage d'Anisée et puis l'hymne à la créolie. Et ce qui nous a frappé, c'est que, en lisant l'hymne à la créolie et puis en le remettant en parallèle, en perspective, avec tout ce que vous avez pu dire ou écrire depuis, on se dit, mais tout était déjà dedans.
Oui, effectivement.
Et ce que vous nous dites sur le dessin que vous avez fait, c'est aussi un peu ça? Tout était déjà dedans?
Oui, ça rejoint ta question de départ. Est-ce que... et puis la parole de l'évangile qui m'a touché, là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et la question que je me pose moi-même sur le mystère de mon baptême. Et moi, j'ai l'incertitude, et c'est pour ça que lorsque les enfants ne sont pas aimés, c'est un drame. Mais que tout est dans l'enfant. Et que l'enfant que j'étais était déjà l'évêque que je suis. Mais à la mesure de l'enfant. C'est-à-dire, je suis l'aîné de ma famille, nous sommes 9, et c'était une époque difficile. 42, c'est l'année terrible, c'est l'année de l'étoile jaune pour les Juifs, mais c'est aussi le basculement de la Seconde Guerre mondiale et la remise en route pour la victoire. Ça aussi, c'est un symbolisme de l'histoire, et ce mystère de mon baptême, ce mystère de la vie qui doit surmonter les difficultés, je crois que ça m'a préparé à être ce que je suis. Et là, papa était responsable de la distillerie de Stella, maman était institutrice au Piton Saint-Leu, et à la cour de récréation ou bien autour de la distillerie, on rencontrait, j'avais des petits camarades, mais à l'époque c'était école de garçons, école de filles. Il n'y avait pas la mixité dans les écoles. Mais on se retrouvait de toutes conditions sociales et nous étions tous très à l'aise les uns vis-à-vis des autres pour jouer assiette ou jouer canette. Et il y avait les cachets de quinacrine à ce moment-là parce qu'il y avait le paludisme. Et par conséquent, chaque semaine, on était alignés devant un robinet et on nous donnait un cachet de quinacrine qui était amer comme je sais pas quoi. Et là, on prenait notre revanche sur les règles d'orthographe, les mathématiques et tout le reste. Et on s'entraidait, on trouvait un système pour envoyer le cachet de quinacrine je sais pas trop où, ou bien on l'entourait d'un petit bout de papier pour ne pas avoir l'amertume du cachet. Et par exemple, dans le groupe de dialogue interreligieux, il y a Abdoul Kassou qui était à Saint-Leu, on a vécu tout ça, on connaît tout ça. Donc c'était déjà la créolie avant le mot. Et le vivre ensemble, on ne le théorisait pas. L'identité, on ne théorisait pas. Et on parlait là de tout. On maillait notre français, notre créole. Ça faisait une vie. Ce n'était pas idéologisé. Et je pense que ça crée un soubassement. Et ça m'a inspiré aussi... ça m'avait déjà inspiré avant le poème, le grand poème réunionnais ou le poème Peuple corallien. Et je faisais déjà de l'anthropologie sans le savoir. C'est-à-dire qu'il y a un soubassement de construction de notre peuple qui fait qu'on n'est pas des groupes juxtaposés les uns à côté des autres. Et qu'on n'est pas d'abord une société multiculturelle. On est une société interculturel, c'est-à-dire où on s'enrichit les uns et les autres dans un métissage, dans un zambrocal. Je préfère l'image du zambrocal à l'image de l'arc-en-ciel, en ce sens que tout, chaque élément est imprégné de tous les autres éléments. Et puis l'élément reste lui-même, le riz reste le riz, le haricot il reste le haricot, le safran la rentre dans toute, le jus est la même pour toute la bande. Et toute la bande la cuit ensemble dans la même marmite. Bon. Et pour moi, c'est ça. Et puis après, il y a les différences qui s'expriment sur ce socle commun, ce récif corallien, où au fur et à mesure, les coraux se développent sur les autres coraux. Au fur et à mesure. Et ce qui est fossilisé au-dessous, apparemment, on peut croire que c'est mort et ça sert à rien. Mais ça sert aux nouvelles générations qui sont au-dessus. Et il y a de nouveaux coraux qui apparaissent. Heureusement qu'il y a la réserve marine maintenant pour développer, permettre aux coraux de repartir et aux poissons de revivre.
Monseigneur, justement, on a fait la transition avec le chant, la poésie, mais aussi du contenu, de la réflexion. Vous avez chanté On a vous avez chanté. Aussi, voilà, vous avez fait chanter aussi La Réunion. Alors avec Didier, nous avons choisi aussi de réentendre une de ces chansons de votre premier album qui a émerveillé La Réunion avec l'émerveillement que vous avez eu vous-même de La Réunion et du monde.
Merci déjà, que ça y sorte là.
Au thé créole, pas besoin la paix, dresse la tête, rouvre ton ziel. Au thé créole, pas besoin la paix, dresse la tête, rouvre ton ziel. Au thé créole, chemin est long, l'île est longue, tu connais. Pas besoin la peur,
pas besoin la peur, pas besoin la peur,
pas besoin la peur.
Côté créole,
pas besoin la peur,
pas besoin la peur.
Ton pied va plucher, ton os va craquer, mais ton cœur va chanter, ton corps va sonner.
Ton pied va plucher, ton os va craquer, mais ton cœur va chanter, ton corps va sonner.
Côté créole, pas besoin la peur,
pas besoin la peur, pas besoin la peur.
Créole, pas besoin de la peur. Une prophétie ou une révolution, monseigneur ?
Toute prophétie n'est pas révolution. Et toute révolution n'est pas prophétie. C'était, je dirais simplement, un chant d'espérance appelant à un certain réveil intérieur. Avec la prise de conscience de, je dirais, de dire, ben, nous les capables. Et je crois que c'est ce qui manque le plus à nous, réunionnais. C'est cette confiance en nous-mêmes et être capable de dire, nous connaissons notre histoire. C'est pas seulement avoir des slogans, mais c'est se remettre en cause. Et puis dire, mais comment faire pour vivre ensemble sur cette terre-là, qui est la nôtre? C'est ça le plus important. Et trop souvent, on est sur des slogans politiques ou des slogans religieux, et on n'arrive pas à descendre au fond. C'est ça le problème. Et on risque de mettre des pots de banane sous les pieds les uns des autres, au lieu de se dire, ben voilà, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et je fais la différence, par exemple, avec les Mauriciens. Et paradoxalement, je dis ça à mes amis Mauriciens, vous n'êtes pas une nation. C'est des groupes juxtaposés qui évoluent et où le métissage va se développer aussi. Et ça va venir... inévitablement, si on peut dire, dans le contexte mauricien. Mais ils vivent sur le même espace. Et ils sont obligés eux-mêmes de prendre les décisions, et les décisions politiques, pour que l'économie se développe et qu'on vive au mieux sur cette terre-là tout en ayant les frontières ouvertes. Nous, on est à l'inverse. On a un peuple où les relations, je dirais, sont... Il y a toujours des passerelles entre les groupes et chacun de nous est habité par les autres. Biologiquement déjà, culturellement. Mais pour les décisions fondamentales, on est toujours en train de se référer à ce qui se passe au niveau de l'Hexagone, au niveau de l'Europe, et c'est essentiel de ne pas couper les liens de l'histoire. Mais les décisions pour permettre une économie qui fasse vivre au maximum les Réunionnais qui sont sur cette terre et qui se préparent aussi à partir ailleurs pour certains, et c'est nécessaire de partir ailleurs, c'est là où se joue la richesse humaine de la Réunion et la richesse économique de la Réunion. Et souvent on entend, notamment dans les manifestations sociales, et on comprend, mais il faut aller plus loin que cette expression qui dit « donne créole travail ». C'est pas les politiques qui donnent le travail. C'est pas la France qui donne le travail. C'est nous ici, avec les conditions que nous pouvons créer, comment on va développer l'activité et le travail. C'est ça la question. Parce que faire du social sans l'économie, qui paye? Voilà la question. Et dans Ote Créole, il y en a ça déjà. Et dans l'hymne à la créole, il y en a ça. Et dans mon recueil, Sois peuple, il y en a ça.
Monseigneur Aubry, donc nous sommes heureux à l'occasion de votre anniversaire de vous accueillir sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec Françoise. Et Françoise va aussi, nous proposer de, non pas de vous brosser un portrait, mais de vous de nous aider à vous découvrir davantage. Françoise.
Vous avez déjà joué au portrait chinois? Vous voyez ce que c'est?
Nawar, bon.
Une série de questions-réponses rapides. Alors, si vous étiez un personnage de la Bible, vous seriez?
Parce qu'il marche dans le désert.
Et qui fait naître un peuple.
Souhaitons-le.
Si vous étiez une parabole?
Le grain de blé qui tombe en terre. Et c'était le texte de l'enterrement de Sœur Colette, qui était médecin à l'hôpital d'enfants et qui a été formé par le professeur Robert Debré, le père de Michel Debré. Et j'animais les obsèques. Et c'est ce matin-là que le père Quatrefages m'a posé la question en me disant « Assieds-toi là en face de moi ». Il mettait ses lunettes sur le bout de son nez comme ça, avec sa barbe. « Mais qu'est-ce qu'il va me dire maintenant ?» Et puis, il me dit « Surtout, tu me dis pas non ». Je dis « Quoi ?» Il me dit « Voilà, le Saint-Père, le pape Paul VI, par le nom de Tananarive, me demande de demander au père Gilbert Aumry s'il accepte de devenir évêque de la Réunion. » Bon. Je dis, je peux parler à mon accompagnateur spirituel? Il me dit, non. Et je lui dis, j'ai combien de temps pour réfléchir? Il me dit, je dois donner la réponse à 4 heures cet après-midi, par téléphone avec message codé. Ah. Ben, je dis oui, ben donne-moi jusqu'à ce soir alors. Et puis j'anime les obsèques, et je savais pas. Et l'évangile, c'était si le grain de blé ne tombe en terre. Et puis après, on passe, Père Quatrefages fait son homélie, on passe à la prière universelle, je fais chanter, et là je pleure. Et les gens devaient se dire, mon Dieu, qui devait aimer Sœur Colette? C'était ma réponse qui était là. Et comme je ne pouvais pas en parler, je dis à quoi bon réfléchir encore plus. Si on m'a posé la question, ça veut dire que l'on compte sur moi. Et c'est mon petit écusson servir là, qui est revenu. Et à la sacristie, après, j'ai dit à Urbain, enfin au père Quatrefages, je dis écoute, c'est pas la peine d'attendre plus longtemps. Je dis oui. Donc le grain de blé qui tombe en terre.
En 2010, dans votre homélie de la messe chrismale, vous avez dit aussi que depuis que vous étiez évêque, Saint-Augustin était votre modèle d'évêque.
Oui, Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin est à la charnière de... à la charnière de la communauté chrétienne et de la société civile. Et que c'est celui qui établit des ponts entre les groupes fondamentaux. Et Augustin a vécu dans une époque tourmentée aussi, et sa vie de jeune homme n'était pas une vie de rectitude. Et sa mère Monique a prié pendant des années pour la conversion d'Augustin. Ça ne veut pas dire que j'étais un chenapan dans ma jeunesse, hein, c'est pas ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Augustin a connu une époque tourmentée et qu'il est passé par des conversions. Et on n'a jamais fini de se convertir. Et c'était aussi quelqu'un qui avait le souci de la culture, c'est-à-dire de la transmission de l'Évangile dans une culture nouvelle où il fallait faire le lien entre la foi et la vie et la foi.
Alors, on vous a préparé une petite surprise. Donc, je pense que Didier va nous la faire écouter. Ça sera une surprise pour les auditeurs aussi.
Mais on est parlé jusqu'au bout du chinois, là.
Ah, ça va faire
partie. On y est peut-être encore un peu.
Reste pas dans le peignoir, viens dans la lumière. Mets par côté, sac la pas bon et marche droit. Avec autre conscience droite. Soleil, il est, soleil, il dort. La lune, il est, la lune, il dort. Saute même la lumière, il éteint pas.
Jean-Paul II, 2 mai 1989, à la Trinité.
C'est resté gravé, ça.
Oui, oui, oui.
Une phrase que vous lui avez inspirée, qu'il vous a inspirée, que vous avez choisie ensemble.
Ben, un voyage, je dirais un voyage pontifical, une visite du pape, ça se prépare, et ça s'est préparé ici dans le cyclone Firinga. En plein cyclone, je réalisais des fiches, j'écrivais des fiches, et de telle manière que ça puisse être transmis au pape, et j'ai fait 2 ou 3 voyages à Rome pour rencontrer l'équipe du voyage. Et en discutant, notamment avec le cérémoniaire, il me dit « c'est bien si la langue du pays rentre aussi dans l'homélie ». Et puis, comme j'ai fait des propositions et que je pensais à la situation de La Réunion, je dis « il faut une transposition d'Isaïe ». Et on a pris ça. Voilà. Le soleil, la lune, le soleil ne se couchera plus, la lune ne se couchera plus. Et j'ai transformé. Et puis, ça a été intégré dans l'homélie par ceux qui l'ont travaillé là-bas. Et moi, j'avais les textes, évidemment, avant, dans un classeur que j'ai serré très fort dans ma main pendant tout le voyage du pape, parce que tout était minuté et tout était écrit, pas question d'improviser. Et entre la sacristie de la Trinité et la place de la Trinité, je dis à Jean-Paul II, je lui dis très Saint-Père, là, vous avez une phrase en créole là. Il me dit oui. Alors je lui dis on va répéter un peu si vous voulez. Il me dit oui. Alors il prend le papier. Le cérémoniaire lui donne le papier et puis je lui donne l'intonation, je lui fais répéter, voilà, c'est bon, voilà.
On aime bien cette image de l'évêque faisant répéter au pape la phrase qu'il doit dire. Quelles sont les relations d'un évêque avec un pape? On vous a vu très éprouvé au moment de la mort de Jean-Paul II, pourtant vous vous connaissiez assez peu.
On se connaissait très bien.
Alors
je connaissais très bien parce que, comme j'ai été nommé évêque très jeune, j'avais 33 ans, j'étais ordonné, j'avais pas 34 ans, il était frappé par, je dirais, ma jeunesse. Et il se posait sans doute la question, est-ce qu'il va tenir le coup ? Bon. Et en relation avec le Monseigneur Margeau, qui n'était pas encore cardinal à ce moment-là, nous avions l'idée de développer les relations océan Indien. Et par conséquent, Jean Margeau, Monseigneur Margeau, il y avait aussi Félix Paul qui était aux Seychelles, Monseigneur Félix Paul, on s'est dit, il faut arriver à faire bouger les choses. Et le cardinal Gantin à Rome, qui était responsable de la dimension missionnaire de l'Église avec la propagande, poussait aussi pour qu'il y ait une rencontre entre le pape et les évêques d'océan Indien. Et c'est comme ça qu'il y a eu les visites ad limina, c'est-à-dire les rencontres avec le pape. Et à chaque fois, il y a un tête-à-tête entre le pape et l'évêque. Et j'avais eu l'occasion personnellement de lui demander, en dehors des visites ad limina, une rencontre. C'était à Castel Gandolfo, la villa de, enfin, la villégiature de vacances du pape, dans la banlieue romaine. J'ai fait deux synodes à Rome, et à ce moment-là, on rencontre aussi le pape, en tout petit groupe cette fois-ci, mais vraiment en petit groupe, et avec la conférence épiscopale française, ce qui fait que j'ai eu, je crois, j'ai compté, ça doit faire une trentaine de fois où j'ai pu rencontrer Jean-Paul II. On dit Jean-Paul II a une mémoire extraordinaire, c'est vrai. Mais les rencontres ne sont pas comme ça improvisées de la part du pape. Puisqu'il a ses collaborateurs, il a les fiches, donc sa mémoire est aiguisée, mais sa mémoire lui ramène aussi des souvenirs, lui ramène des flashs, lui ramène... Et il aimait bien la Réunion, et son voyage à la Réunion, sa visite à la Réunion en 1989, l'a beaucoup marqué par la ferveur qu'il a trouvée et par ce mixage, de ce métissage de la population. Jean-Paul II est aussi un acteur de théâtre, il est aussi un poète. Et il n'y a pas besoin de longtemps pour sentir une population. Et au moment, déjà à la cathédrale, le 1er mai au soir, il avait senti, là, il était arrivé fatigué de Madagascar. Mais à la sortie de la cathédrale, il était revigoré. Et le lendemain, à la Trinité, au moment où il donnait la communion, il voyait les visages défiler là, devant lui. Et je voyais les yeux qui étaient mouillés. Il avait des larmes au coin de l'œil en voyant ces gens qui arrivaient en face de lui. Et ces visages qui se succédaient de toutes les couleurs, de toutes les formes, hors normes.
La visite de Jean-Paul II, un événement pour La Réunion. Pour vous, un autre ou deux autres événements qui ont marqué La Réunion et qui vous ont marqué vous aussi dans... peut-être des choix, des orientations, ou une vision pour la Réunion de demain.
Je dirais, j'ai vécu en direct la descente du volcan sur Piton-Sainte-Rose, en face de l'église. Et nous étions là, de chaque côté de la coulée, des groupes... à droite, des groupes à gauche, regardant ce phénomène qui descendait, qui allait brûler les champs de canne, les maisons. Le bâtiment de la gendarmerie a été relativement préservé, et tout le monde retenait son souffle quand la lave est arrivée en face de l'église. Et on a vu la lave brûler le bois de la porte, et la lave rentrait, commençait à rentrer dans l'église, et les tôles qui se gondolaient, qui éclataient, les vitres qui éclataient. Et je vois encore un planteur de Sainte-Rose, un petit planteur, là, même les hommes, ils causaient plus, hein. Bon. chapeau de fête sur la tête, pantalon retroussé, roulé en bas. Et dans le silence, on entend, excusez-moi, je rapporte là comme un journaliste, hein, quitte ta mère, jusqu'à le bon Dieu, il respecte plus comme elle a. Bon. Mais, alors là, il y avait une psychose extraordinaire qui a suivi cet événement, et il y a eu l'exode. C'est-à-dire, le maire, c'était Alix Elma, et il a été très courageux, le préfet, c'était le préfet Lamy. La mobilisation des gens, les camions, les tracteurs, quitter Piton Sainte-Rose pour aller sur Sainte-Rose. Et le dimanche qui a suivi cet événement, je suis allé célébrer la messe dans la cour de l'école qui a été transformée en centre d'accueil pour les réfugiés. Et quelque chose d'extraordinaire. Pendant la messe, je vois une dame qui, dans ses bras, porte un petit cochon rose avec le museau coincé dans le coude, comme un bébé. Alors, à la fin de la messe, je vais la trouver. Et puis, je lui dis, mais madame, que ça, oui, ça fait, écoute, cochon, là. Et il dit, moi, la paix de tout, sauf ce petit cochon-là. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire, coup de cochon, là? Il dit, tracasse pas où? N'a fait cuire à l'inapartagé. C'est extraordinaire de voir cette générosité du cœur dans la détresse. Et que les gens qui sont dans la détresse, souvent, sont les plus capables de s'entraider que ceux qui ont tout ce qu'il faut pour vivre. Ça m'a marqué. Et puis aussi une visite qu'on a faite avec le MTKR dans les Hauts de Saint-Louis à Pièce-Jeanne. C'est un peu dans le même esprit de voir comment les gens qui sont dans des difficultés, qui sont en but parfois aux tracasseries administratives, qui sont loin, qui ne rapportent pas nécessairement des voix aux élections, je dirais, sont souvent ignorés, mais sont capables de se prendre en main. Et troisième expérience, c'est avec le père Fernand Técher, qui était à Bois-de-Nèfles-Saint-Paul. Et nous avions reçu, et j'avais reçu, le père Joseph Wrzeszynski, qui était de passage à La Réunion avec sa secrétaire de ATD Carmont. Et puis on a longuement échangé pendant une matinée. Et il m'a dit, où est-ce qu'on doit s'installer, si on doit s'installer. Je lui ai dit, oui, il faut venir. Et je lui ai dit, sans souci, à Bois-de-Nèfles. Et à partir de là, ils se sont implantés à Sans Souci. Et ça a été le démarrage, là, d'un petit groupe, bibliothèque de rue, les enfants, les familles. Et je crois qu'aujourd'hui, le MTKR construit son action dans cette région-là. Je parle de cette région, mais dans d'autres régions aussi. Mais à partir aussi, peut-être qu'ils sont même, ils ne sont pas conscients du soubassement qui a existé. Mais au point de départ, là, il y a Fernand Técher qui était là. Et Fernand est un homme extraordinaire. Plein d'humour aussi, ayant conscience d'être dans la tradition des apôtres. Et avec Saint-Pierre, et un jour, il nous disait, moi, m'a prendre mes précautions quand m'arrive là-haut, quand m'a mourir. Si Saint-Pierre, il ne met pas la clé sur la porte pour ouvrir moi la porte, là. M'y amène un coq sous mon bras. Et puis. Et m'y dit à lui, Pierre, ou rouvre pas la porte, écoute coq là.
Monseigneur, tout à l'heure, vous me parliez d'un mot qui aurait pu être votre devise, service, à travers ce blason que vous avez dessiné dans votre jeunesse avec d'autres amis. Mais vous avez choisi autre chose pour votre devise d'épiscopat. Joie, espérance, justice et paix. Alors pourquoi cette devise et qu'est devenue cette devise pour vous aujourd'hui après toutes ces années aussi au service de l'Église et aussi de la Réunion?
Ça reste un idéal qui n'est jamais atteint. Et lorsque j'avais été nommé évêque, je n'étais pas encore ordonné. La nomination n'était pas encore officielle et rendue publique. Et certains courants politiques voulaient faire capoter la nomination. Ils ont créé un remue-ménage. Heureusement que sur le décret de nomination, il y a la date de Paul VI qui montre que Paul VI a pris sa décision de manière vraiment indépendante. Et vu le remue-ménage, à ce moment-là, je suis allé à l'île Maurice. Et je lui ai dit, mais il faut te préparer. Qu'est-ce que tu vas prendre comme devise? On n'est pas obligé de prendre une devise. Mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'on n'était pas obligé. J'aurais peut-être pas pris de devise. Mais, en marchant, je me dis, il y a le Concile Vatican II. C'est le Concile qu'il faut prendre comme programme. Et par conséquent, dans le Concile, la relation, la foi et la vie et la foi. Et c'était avant l'hymne à la créolie, mais c'était après le poème réunionnais et avant le poème Sois peuple. Et ça m'est revenu, Gaudium et Spes, joie et espérance, c'est-à-dire l'Église dans le monde de ce temps. J'ai dit, ben voilà ta devise, c'est le Concile. Et après le Concile, il y a eu le développement justice et paix, la mise en place de la commission justice et paix, c'est-à-dire la relation entre la foi et la vie. Il faut partir dans ce sens-là. Et ça n'a pas été facile de mettre en place le groupe justice et paix, parce que la commission diocésaine justice et paix, parce que au début, la question était politisée. Donc il a fallu du temps, et après on est arrivé à la commission diocésaine justice et paix. Voilà l'origine de la devise, mettre ensemble ce que dit le Concile sur l'Église dans le monde de ce temps, et puis la relation aux autres pour que la justice et la paix puissent s'établir. C'est un programme sans fin, éternellement recommencé.
Monseigneur, peut-être pour terminer notre échange, nous aimerions bien vous entendre, vous réentendre dans un de ces poèmes que vous avez écrit. Vous écrivez pour vous ou...
Au départ, j'écris pour moi. Et puis, parfois, c'est aussi une inspiration qui vient à l'occasion d'un événement. Bon, et puis j'essaie d'échanger. Si ça passe, bon, au point de départ, l'édition, ça a été comme ça. J'ai commencé à écrire à Rome avec la distanciation. Et puis des amis m'ont dit, mais il faut nous partager ça. C'est à partir de là que, je dirais, un recueil de poèmes peut se constituer. Mais pour moi, tout est enraciné véritablement dans l'enfance. J'ai eu l'occasion de développer ma source poétique, on pourrait dire ma matrice poétique, en relation notamment dans un échange avec Boris Gamaleya. S'il est à l'antenne, je te salue, Boris, voilà. Et s'il est à l'écoute, plutôt. Hein. Mais je vais prendre maintenant un poème qui me fait penser à mes parents, surtout à ma mère, qui était une pédagogue extraordinaire, et sans grande formation, mais qui était une institutrice qu'on a tirée du Piton Saint-Leu pour mettre à l'école d'application en Saint-Denis, recevoir les instituteurs, institutrices, stagiaires. Et ce poème-là me fait penser, je l'ai écrit lorsque j'étais à Rome, et j'ai envoyé ça à ma mère pour une fête des mères. Évidemment, c'est toute l'enfance qui... Une partie de l'enfance qui remonte, mais c'est déjà le combat. Parce que maman nous disait, il faut vous battre dans la vie. Et papa aussi, mais maman insistait beaucoup plus là-dessus. Et l'ouverture en même temps. Dis maman, oui mon enfant, pourquoi les anges ont-ils des ailes bleues ou roses? C'est pour te permettre de rêver, mon enfant, avec du bonheur plein ton cœur. Dis, maman. Oui, mon enfant. Mais où vont-ils avec leurs ailes dans le doux? Tu sais, ils sont toujours dans le cœur des hommes, mon enfant. Et des fois, tu les entends marcher pieds nus dans le tien. Toc, toc, toc. Écoute bien. Dis, maman. Oui, mon enfant. Fais-moi peur, avec ouh, comme le loup. Bien sûr, petit fou, ouh, voilà, comme le loup, tu as peur, hein? Mais dis, maman, oui, mon enfant, pourquoi tu ris, triste comme ça, quand je suis content d'avoir si peur? Et parce que tu es si brave, mon enfant, avec ton petit nez rose et ton pyjama bleu, tu verras quand tu seras plus grand, tu seras encore plus brave, pour te battre contre les loups, comme ça, dans une espèce de guerre, où tu n'auras plus peur. Dis, maman. Oui, mon enfant. Pourquoi tu pleures? Attends, maman, je vais te faire peur, pour te faire rire. Ouh, maman, tu vas rire comme moi, maman. Bien sûr, gros bêta. D'ailleurs, je ne pleurais pas. On jouait à faire semblant, puisqu'on est trop grand. Papa et maman. Dis, maman. Oui, mon enfant. Et pourquoi vous êtes grand et moi petit? Tu vois, c'est pour qu'on s'aime à te faire grandir, mon enfant. Mais alors, quand est-ce que je serai grand? Quand nous serons petits comme toi, mon enfant, et puis, tu sais... Oh, dis, maman, mais on sera tous pareils, alors. Et il existe ce pays-là, comme maintenant? Bien sûr, mon enfant, tu le trouveras quand tu seras grand. Pourquoi? Pourquoi? Oh, j'ai sommeil, maman. Bonsoir, maman. Dors, mon petit enfant, en écoutant les rêves de ton cœur, puisqu'on s'amuse, et pour qu'on s'amuse demain, dors bien. Tu veux bien, dis. Dis, maman, pourquoi tu pleures?
Monseigneur Gilbert Aubry, merci pour ce temps d'échange. Et encore, avec tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, nous vous souhaitons un très joyeux, très heureux anniversaire. Et encore beaucoup d'années, avec autant de poésie, de créativité, d'engagement. Merci, merci Françoise, et merci Didier qui était à la technique.
Merci, merci à vous pour la surprise, et ça a permis d'échanger et de descendre au fond des cœurs.
Maman créole, ton petit enfant l'est un bijou, n'a point un fleur plus belle que lui, n'a point pigeon aux yeux plus doux, n'a point trésor, n'a plus le prix. Son petit yeux grain longani, son petit bouche comme un petit nid, pour mettre son poing comme petit cocotte, quand son petit main vit fait menotte.